Salut à toutes et à tous, comment ça va? Alors oui, je sais, ça fait un bail que je vous ai pas donné de nouvelles, mais c'est pas pour ça que je me suis tourné les pouces. Ah là là, non. Mais ça, pour celles et ceux qui ont suivi sur Instagram, vous avez vu que j'ai sorti un nouveau podcast, hein, donc j'ai pas chômé. Ça s'appelle Ganache, c'est un format émission de radio où je partage le micro avec deux chroniqueuses exceptionnelles prénommées Elodie et Serena, et on parle de culture à la saucionnaise pendant 69 minutes. Parce que, ben, 6-9 la trique, Pélo. Alors, il y a déjà 3 épisodes de sortie, et c'est trop cool, parce qu'on a eu un super accueil à chaque émission, et je me suis dit qu'en fait, dans Ganache, bah, je fais entre autres une chronique histoire, et que bah, ça serait cool que je vous la partage ici, parce que bah, c'est logique, on reste dans la même thématique. Donc voilà, c'est de ça dont il va s'agir dans cet épisode, c'est une sorte de rediffusion. Cet épisode, c'est la toute première chronique que j'ai faite en début d'année 2023, et je parle de la création de Lyon. Et d'où vient le nom de Lyon? Parce que, voilà, Lyon, que je sache, il n'y a pas de lion, de l'animal en France, donc Lyon, la ville, what? Bon bah voilà, réponse, maintenant, bonne écoute!
Tu connais pas le Moyen-Âge? Ah bah dis donc, toi, question culture, hein? Pas de job!
La culture burgonde? Je savais même pas qu'il y en avait une.
L'histoire de Lyon, comme vous l'avez jamais entendu, vous est présentée par JD, seulement dans Ganache.
Et c'est qui le lion maintenant?
Merci Hello, oui, donc effectivement pour cette première chronique histoire, en fait je savais pas trop quel sujet choisir hein, pour commencer. L'histoire de Lyon, on le sait, hein, c'est 2000 ans d'histoire, il y a 1000 trucs à raconter, 1000 anecdotes. Hein. Pour ceux qui écoutent mon podcast sur les traces de l'histoire, vous savez que bah, je raconte plein de trucs déjà. Ceux qui me suivent sur Insta aussi, ben voilà, il y a plein de trucs à dire. Donc, je me suis dit, je vais commencer par la base, comme ça, eh ben, ça sera une bonne première chronique. Alors du coup, je vais vous parler du Y de Lyon.
Mais c'est quoi?
Et oui, parce que Lyon, ça s'écrit L-Y-O-N, alors qu'un lion, l'animal, ça s'écrit L-I-O-N. Alors, vous allez me dire, tu vas parler de ça pendant toute la chronique?
Je parlais de la Maître Capello.
Ouais, c'est ça, genre, ok, ça part sur du Bernard Pivot, en fait. Non, ça s'appelle une intro, et je vais vous dire où je vais aller. Mais d'abord, je vais vous poser une question, mes petites ganaches. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que la ville de Lyon, vue de haut, vue d'avion, eh ben, former un Y.
Oui.
Ah bah oui, parce que du coup, il y a la presqu'île au centre, avec les deux confluents.
Exactement, avec la Saône et le Rhône qui se rejoignent à la confluence, ça forme un sacré Y. Le fameux Y, symbole de fertilité, symbole de féminité, mais aussi le nom de la plus petite ville du monde, qui est une ville dans la Somme, qui s'appelle I, et qui s'écrit Y. Voilà, ça, mais pour le coup, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est juste ces cadeaux.
C'est la minute culture.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est cadeau, je vous le donne. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Non, en vrai, je ne vais pas trop m'attarder sur la linguistique parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le développement de Lyon qui a épousé ce Y, a évolué entre, autour, au milieu depuis maintenant plus de 2000 ans. Et en vrai, quand on regarde, bien plus de 2000 ans. Voilà, les filles, nouvelle question pour commencer. Est-ce que... Question facile, vu que c'est la première émission.
J'aurais dû me préparer.
Non, c'est facile, c'est très facile. Avant de s'appeler Lyon, comment s'appelait la ville au temps des Romains?
Longdunum.
Longdunum.
Avec l'accent.
Longdunum. C'est la fille du sud-ouest. Ah, ça, Longdunum. Mais oui, c'est ça. La colonie romaine fondée en 43 avant Jesus Christ, elle a été fondée par Lucius Munatius Plancus, qui deviendra... oui, si lui, il n'a pas un nom romain, s'il te plaît.
Oh,
mais qui deviendra, du coup, la capitale de toutes les Gaules en s'appelant Lugdunum.
Donc c'est Plancus qui a fondé la capitale de toutes les Gaules.
Exactement. C'était la planque. Et donc, effectivement, ça s'appelait Lugdunum. Donc, on est d'accord, rien à voir avec Lyon, si ce n'est le L de début, encore moins de lien avec l'animal, puisque Lyon, en latin, ça se dit Léo. Donc, pourtant, aujourd'hui, ben, le lion, c'est le symbole incontesté de la ville de Lyon. Mm-hmm. Donc, on peut se demander qu'est-ce qu'a fait que de Lugdunum, ville romaine, on est passé à Lyon, déjà, le nom, rien à voir, et ce lion sort d'où? Donc, c'est de ça dont il va se parler. En fait... Tout vient quand même du temps des Romains. Dites-vous, on retrouve des traces de vie dans la plaine de Vest depuis le néolithique. Donc des hommes avec un grand H, c'est pas tout neuf. Ce qu'on sait aussi, c'est que les Gaulois squattaient déjà la colline de Fourvière avant que les Romains débarquent en Gaule. Souvent d'ailleurs, les Romains, ils se faisaient pas chier. Hein. Ils construisaient leur ville à l'endroit où il y avait déjà une ville gauloise. Donc ça, c'est le cas un peu partout en France. Et ils construisaient par-dessus. Et les Gaulois, ils étaient pas teubés, ils savaient aussi choisir les bons spots. Du coup, ils ont pas attendu les Romains. Et le spot de Fourvière, c'est exactement ça. Strabon, qui est un fameux géographe grec qui a parcouru toute la péninsule méditerranéenne et qui a été du coup en Gaule, il écrit ceci. Comme la ville de Lugdunum s'élève au centre même de la Gaule et que par sa situation au confluent de deux grands fleuves et à proximité de différentes parties de la contrée, elle en est ainsi pour dire l'acropole ou la citadelle. Agrippa, qui était un proche de l'empereur Auguste, l'a choisi pour en faire le point de départ des grands chemins de la Gaule, lesquels sont au nombre de 4 et aboutissent le premier chez les Santons en Aquitaine, le second au Rhin, le troisième à l'océan et la quatrième dans la Narbonnaise et à la côte massaliote, la côte méditerranée, Massalia étant Marseille.
Marseille.
Exactement. Donc Strabon, il dit ça. Ce qui prouve que Lyon est extrêmement bien placé d'un point de vue géographique, d'un point de vue macro à l'échelle de l'Europe. Récemment, après des fouilles archéologiques, on parle de 2015 là, sur la colline de Fourvière, on a découvert que sous le mur de fortification romain qu'on avait trouvé, ben, y avait un mur gaulois. Ce qui prouve que les Romains ont fondé la colonie Lugdunum sur la colline de Fourvière, ok, mais ils l'ont construit par-dessus un spot qui était déjà occupé et qui était gaulois. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que dans le nom même de Lugdunum, il y a deux lectures qui sont liées à cette dualité gauloise et romaine et qui est, je trouve, le meilleur symbole de la fusion de deux peuples, de deux cultures et d'un mélange réussi de ces deux cultures. Et c'est ça qui est intéressant, en vrai, de se dire qu'on parle beaucoup d'assimilation, etc. Ça a déjà eu lieu et ça fait des choses belles. Regardez, 2000 ans plus tard, on est dans la même ville. Et ça, c'est cool. Et c'est pas le seul exemple. Hein. Là, on parle que de Lyon, mais en France, il y en a partout. Si on décompose Lugdunum, le nom, on a Lug d'un côté et Dunum de l'autre. Dunum, c'est simple, ça veut dire colline. On parle donc bien de la colline de Fourvière. Et de l'autre, on a Lug, et c'est là où ça se passe. D'un côté, on a la version latine avec Lux, qui veut dire lumière en latin, qui donne donc la colline de la lumière, la colline éclairée. Version qui semble logique, vu qu'après tout, ce sont eux qui l'ont nommé en latin et qu'effectivement, la colline de Fourvière, elle prend le soleil quasi toute la journée.
Et la fête des lumières, du coup, est-ce qu'il y a un lien ?
Non, ce sera pour une autre histoire.
D'accord.
Donc ok pour la colline éclairée, ça c'est la version latine. Mais de l'autre côté, on a la version gauloise qui est aussi stylée. Chez les Gaulois, Lug, c'est le dieu principal. C'est Mercure, si on doit faire un équivalent chez les Romains. César dira, dans sa Guerre des Gaules, donc c'est son livre où il parle le plus des Gaulois, « Le dieu qu'ils honèrent le plus est Mercure. Ses statues sont les plus nombreuses. Ils le considèrent comme l'inventeur de tous les arts. Il est pour eux le dieu qui indique la route à suivre, qui guide le voyageur. Il est celui qui est le plus capable de faire gagner de l'argent et de protéger le commerce. » Donc pas étonnant que ça soit le dieu majeur chez les Gaulois. Hein. C'est quand même un dieu qui a de la gueule. D'ailleurs, plus tard, quand les cultures romaines et gauloises se seront bien mixées, donc là on parle bien 200-300 ans après, on les mélangera en faisant un seul et même dieu qui s'appellera Lug Mercure.
Pas facile à porter, comme nom.
Pas facile à porter, mais ce qui prouve surtout la grande ouverture des Romains en termes de religion. Ils acceptaient les dieux et faisaient en sorte qu'en gros, que les peuples qu'ils avaient intégrés à leur empire pouvaient respecter leur culte local. Et ça, c'est très classe. Mais à la base, chez les Gaulois, ce dieu Lug, il est souvent symbolisé par un corbeau, de temps en temps par un sanglier aussi, mais là ce qui nous intéresse c'est le corbeau. Et la légende raconte que bien avant l'installation des Romains, quand les Gaulois sont arrivés sur le spot de la future Lyon pour fonder une nouvelle cité, ils ont vu que l'endroit était parfait avec d'un côté, donc là on va parler du spot parfait d'un point de vue micro. Donc d'un côté il y a la colline de Fourvière, de l'autre il y a la colline de la Croix-Rousse, au confluent du Rhône et de la Rare, c'était comme ça qu'on appelait la Saône à l'époque, qui permettent donc de faire du commerce, de grands cours d'eau. Qui plus est, ces deux collines aux pentes abruptes font tout aussi office de murailles naturelles que le sont les deux cours d'eau. Bref, tout est fait pour y fonder une cité prospère. Et ça, les Gaulois l'ont bien vu. Mais ce qui scellera le destin de la colline de Fourvière, c'est une apparition divine. Donc on est au 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc je vous rappelle, hein, les Romains sont arrivés qu'en 43 avant. Donc on est entre 100-150 ans avant les Romains. Au 2e siècle avant Jésus-Christ, lorsque ils approchèrent de la confluence du Rhône et de la Saône, et de la Rare, le roi celte Atépomaros et son frère, le druide Momoros, ont aperçu une foule immense de corbeaux voler autour de la future colline de Fourvière. Les deux frères gaulois y virent tout de suite un signe divin et l'appelèrent la colline aux corbeaux, Lugdunum.
Waouh.
Ok.
Au final, peu importe l'origine story, tu vois, si jamais on est dans des Marvel, peu importe l'histoire d'origine, la cité gauloise puis la colonie romaine prendra le même nom de Lugdunum et rayonnera pendant des siècles au centre de la vie politique et commerciale de toutes les Gaules, qui sont au nombre de 3, je le rappelle. Et pour en revenir à nos moutons, ou plutôt à nos lions, Si le lion devint le symbole de Lyon, c'est parce que Lyon, plus tard, quand ça sera bien développé, a obtenu le privilège impérial de frapper la monnaie. C'était très rare. On retrouve ainsi pour le 40e anniversaire de la fondation de Lugdunum, donc là on est aux environs de 0-3 avant Jésus-Christ, tu vois, on retrouve des pièces frappées en l'honneur de Marc-Antoine, qui était alors un des trois magistrats qui dirigeait Rome. Rome, j'ai dit.
Rome.
Rome.
Voilà, mais Marc-Antoine, dont l'insigne était le lion. On retrouve donc un lion frappé sur ces pièces issues des ateliers lyonnais, sur lesquelles, pour la première fois, on voit associé le lion et Lyon. Et depuis, ça n'a jamais changé. Plus tard, le nom de Lugdunum évolua au rythme des peuples qui s'implantèrent sur le territoire rhodanien. Ainsi, Lugdunum devient Lugdoum, qu'on prononçait déjà en fait Ligdoum en vrai. Puis avec l'arrivée des Francs, des Burgondes, Ligdoum s'est transformé en Lidoun, qu'on prononçait sûrement déjà Lidon, qui a mené des siècles plus tard à Lyon. Donc ça s'est affiné en fonction des langues qui se sont mixées, des cultures qui ont évolué, des peuples qui sont arrivés. Et de Lugdunum, on est passé à Lyon. Quoi qu'il en soit, au Moyen-Âge, les comtes de Lyon portaient le lion comme armoirie. Et ce même lion fut d'ailleurs le symbole de la rébellion contre l'omnipotent archevêque de Lyon qui amena plus tard à l'indépendance de la ville en 1320. Donc en fait, ce lion de Lyon est là depuis l'Antiquité. En revanche, si l'animal et le nom de la ville aujourd'hui sonnent pareil, c'est un pur hasard. Et là, je vais parler comme un vrai lyonnais, un pur mais bel hasard, comme l'histoire de temps en temps, c'est y faire.
On peut dire aussi que les Savoyards font la même chose. Et les hauts Savoyards. Le I est Y, exactement, est partout.
C'est vrai. C'est le I, c'est un peu répandu, de, évidemment, partout.
Bien sûr. Je vais y faire.
Je vais y faire. Il faut que j'y fasse.
Voilà.
Tout ça.
On adore.
Effectivement, c'est grammaticalement...
Génial.
Parfait. Je vais faire deux, trois petits trocos qui sont liés à cette histoire. Pour lier, en fait, il y a trois expos qui sont très cool en ce moment. Il y en a une que j'ai faite, et en fait, qui est une expo permanente. Hein. Maintenant, c'est il y a l'été dernier qu'elle a commencé. C'est l'exposition Les Pieds dans l'eau au musée Gadagne, musée d'histoire de Lyon, qui raconte en fait l'évolution des Lyonnais autour des cours d'eau.
C'est génial. Mmh. J'ai vu l'expo, elle est superbe.
Elle est trop bien.
Ouais.
On voit des tableaux qui sont incroyables. C'est hyper ludique. On peut jouer pour retrouver effectivement, parce qu'en en fait, on a oublié. Aujourd'hui, on ne fait que passer autour. Mais avant, il y avait des gens qui vivaient des cours d'eau. Les lavandières. Les boulangers, puisque en fait on utilisait la force de l'eau pour faire tourner les moulins à eau et ainsi obtenir de la farine. En fait, il y a un milliard de trucs qui sont liés autour de l'eau et même des événements culturels. Là, moi je suis très content que le maire actuel ait relancé la fête de l'eau, le festival de l'eau, je ne sais plus comment l'appeler. Ah non, festival entre Rhône et Saône. Qui en fait était quelque chose qui était historique, que ça soit la fête des merveilles, la fête les fêtes consulaires, etc. Il y a toujours eu des combats de joutes, des fêtes autour des cours d'eau lyonnais. C'était, on disait même, il y a même un proverbe lyonnais qui dit, bon je pourrais le trouver, mais en gros ça, à la fin ça terminait sur « Sais-tu nager, je suis lyonnais ». Genre comme si c'était une évidence que les Lyonnais, en fait, bah, nagent. Il y avait même un problème d'hygiène publique au 19e siècle, parce que les Lyonnais se baignaient tout nus dans la Saône et dans le Rhône. C'était le moyen pour eux de se laver. Donc,
ce qu'on peut tout à fait faire maintenant en 2023.
Exactement, il n'y a pas du tout de pollution, c'est parfait.
Et juste, je rebondis sur l'expo, je la trouve très très cool. C'est ultra didactique, mais surtout très ludique. C'est pas une expo chiante où on voit des œuvres
au plafond,
merci.
Bien sûr.
Non, vraiment, moi, je suis pas hyper fan des musées d'histoire. Et vraiment, cette expo et ce musée que je ne connaissais pas, alors que j'habite à 200 mètres, vraiment m'a surpris. Donc, pour ceux qui veulent aller voir, allez-y.
Bah, le musée d'histoire de Lyon, rien que par sa...
Son architecture.
Son architecture
déjà,
est incroyable. Voilà.
Mais d'ailleurs, si vous pouvez le faire pendant la nuit des musées, c'est fantastique.
Ah,
moi,
ouais.
Je l'ai découvert comme ça. Et c'était extraordinaire.
J'avoue. Deuxième exposition, celle-là, elle est assez neuve. Hein. Elle s'appelle « Nous, les fleuves ». Elle est au Musée des Confluences. C'est du 21 octobre 2022 au 27 août 2023. Donc, vous avez encore du temps devant vous. Mais en gros, c'est raconter comment, pourquoi les peuples se sont construits autour des fleuves et surtout comment, en fait, on est dépendant de l'eau, nous, les humains. Et voilà. Et la relation entre, du coup, les écosystèmes fluviales et le développement des civilisations et des peuples et des cités autour de l'eau. Donc ça, c'est au musée des Confluences. Je ne l'ai pas encore faite, mais elle a l'air très cool. Et enfin, la dernière exposition, donc là, c'est plus lié aux Romains, et je la trouve cool.
Spectaculaire.
C'est effectivement spectaculaire, le divertissement chez les Romains. Mm-hmm. Donc là, qui est au musée gallo-romain, enfin, il ne s'appelle plus comme ça, il s'appelle musée Lugdunum.
Oui.
C'est du 6 octobre 2022, donc celle-là aussi, elle est assez récente, jusqu'au 11 juin 2023, donc vous avez juste avant l'été pour la faire. Et là, clairement, on parle du divertissement chez les Romains, de comment ils s'amusaient. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les rapports entre aujourd'hui, comment on s'amuse, comment on se divertit, versus ce qui se faisait...
Et il y a beaucoup de similitudes.
Il y a beaucoup de similitudes.
Ouais.
J'ai fait un podcast là-dessus, d'ailleurs, si okay. jamais ça vous intéresse. C'est l'épisode 3, qui est sur le théâtre antique. Et le théâtre, évidemment, était un lieu de divertissement. Et je parle de tous les types de divertissement. Donc, si vous voulez creuser un peu le sujet, il y a ce podcast-là que j'ai fait là-dessus.
Et pareil, l'architecture de cet endroit que je connaissais pas. Et t'as tombé par terre. En fait, on se croit dans un bunker.
Ouais.
Et du coup, bah, c'est hyper étonnant, quoi.
C'est aussi un très bon plan canicule.
Ouais. Oui, c'est une bonne idée.
Moi, j'ai limite eu froid alors qu'il faisait 40 dehors. Et j'étais en mode, putain, en fait, je caille. Donc voilà, bon plan l'été, voilà. Musée Lugdunum.
Ils vont voir un raz-de-marée de Lyonnais en train de crever de chaud. On vient pas pour les collections, mais juste pour le froid.
Non, c'est juste, on vient pour la clim naturelle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette rediffusion de la chronique Histoire de Lyon de la première émission Ganache. Si vous voulez écouter l'émission dans son intégralité parce que vous êtes dit, dis donc, il y a une bonne énergie hein, dans cette émission, ça a l'air rigolo, j'aimerais bien savoir de quoi parlent les deux autres chroniqueuses, Elodie et Serena, qui interviennent, et ben sachez que c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming, donc ça c'est magnifique. Ça s'écrit, si vous voulez trouver, c'est Ganache au pluriel, donc avec un S à la fin, comme ça vous pourrez faire le plein de culture lyonnaise pendant 69 minutes. À savoir, avec un F, que bientôt je poste toutes les chroniques des autres émissions, enfin toutes les autres, en fait il y en a deux autres, mais bon c'est déjà ça, hein, c'est des belles chroniques, c'est des sujets, en vrai c'est des sujets qui sont très stylés. Il y en a une sur la révolte des ovalistes en 1869, hein, voilà, c'était pour c'était le mois de mars, donc c'était pour faire écho à la Journée internationale du droit des femmes, et l'épisode 2, on avait enregistré en février, c'était sur, j'ai complètement oublié, c'était sur Lyon, capitale de la résistance, donc très très cool aussi, ça arrive bientôt, tout ça en vrai c'est pour vous faire patienter jusqu'au prochain vrai, avec des guillemets, épisode de Sur les traces de l'histoire, et là je vous tease de ouf aussi, je vous tiens un peu en haleine, pour le coup ça sera pas un seul épisode, mais une série de 6 épisodes sur un endroit bien connu mais peu connu en réalité de Lyon, je vous en dis pas plus, c'est une série par contre qui a été réalisé en coproduction avec les archives de la ville de Lyon, donc ça va être le feu, donc préparez-vous parce qu'on va très vite marcher de nouveau ensemble sur les traces de l'histoire.